10 octobre 2017 et revue de presse Les Voies de service. Vous l'avez probablement déjà deviné, ce n'est pas Hélène Denis qui vous livrera votre revue de presse en ce beau jour. Non, François Brodeur, son remplaçant pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, Hélène devrait être là demain. On commence immédiatement en se signalant et en se souvenant de ce qui s'est passé un 10 octobre au travers des âges. Jean-Sébastien.
Eh bien, mon cher François, je vais faire appel à votre bonne mémoire. Est-ce que vous avez idée sur l'événement marquant du 10 octobre de l'an 43? Avant Jésus-Christ.
De l'an 43 avant Jésus-Christ. Jules César poignardé?
Non. On est en Gaule, alors que la cité de Lugdunum est fondée par Munatius Plantus, le proconsul
Lutèce
de Gaule.
Donc Paris?
Non, c'est non. Lyon.
Lyon, oh!
Lyon en 43 avant Jésus-Christ. Sinon, autre événement marquant, en 1697, arrivée des premières religieuses ursulines à Trois-Rivières. 1913, les travaux de percement du canal de Panama, qui relie l'océan Atlantique et Pacifique, est achevé. 1967, entrée en vigueur du traité de l'espace. En 1964, à Québec, durant la visite de la reine Élisabeth et du prince Philippe, les manifestants sont rudement repoussés par la police, ce qui donnera lieu au fameux « samedi de la matraque ». 1970, crise d'octobre, le ministre québécois Pierre Laporte est enlevé par le FLQ, le Front de libération du Québec, chez lui à Saint-Lambert. On rappelle que son corps sera retrouvé le 17 octobre, donc un 10 octobre pour cet événement très marquant de la crise d'octobre 70. 1979, alors premier match dans la Ligue nationale de hockey, les Nordiques de Québec perdent 5-3.
Ah, ils jouent au hockey, eux?
Pendant un bref moment. Toujours en 1979, la société japonaise Namco met en vente son nouveau jeu, Pac-Man, qui changera de nom en arrivant aux États-Unis pour devenir Pac-Man. Et on sait que le petit bonhomme en forme de camembert jaune deviendra un succès mondial. On reste dans les thèmes légers. 10 octobre 1996, la galère d'Obélix, 30e aventure d'Astérix, est lancée dans 18 pays en 15 langues.
Et voyez-vous, nouvelle culturelle de ce jour, on apprenait justement qu'un nouvel album est sur le point de sortir. On en reparlera au cours de l'émission. Voilà.
Juste à temps pour mettre sur votre liste de cadeaux de Noël. 2008, 10 octobre, le militant pour les droits à l'avortement, Henri Morgenthaler, reçoit à Québec l'Ordre du Canada des mains de la gouverneure générale Michaël Jean. Et 10 octobre 2015, une attaque à la bombe fait au moins 97 morts et 500 blessés à Ankara. C'était il y a 2 ans. 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort et c'est également la journée mondiale de la santé mentale. Les deux peuvent parfois aller de pair quand on sait que ceux qui subissent la peine de mort sont parfois... ont parfois un trouble de santé mentale.
Et à ce propos, je vous rappelle ce que disait Woody Allen à propos de la peine de mort. Je suis contre, sauf pour les architectes.
Ah, sacré Woody Allen. Anniversaire de naissance, en ce 10 octobre, compositeur italien Giuseppe Verdi, né en 1813, et l'homme fort québécois Louis Cyr en 1863. Finalement, les décès du 10 octobre 1985, on perdait deux grands noms du cinéma. L'acteur américain Yul Brynner et l'acteur et cinéaste américain Orson Welles. Et en 2004, toujours dans le domaine du cinéma, l'acteur américain Christopher Reeves, celui qui a incarné le premier Superman, s'éteignait. Et c'est tout.
Et pour ajouter un peu, je vous rappelle que le 9 octobre, donc la date d'hier qui n'a pas été couverte, restera jamais celle de la disparition de Jean Rochefort. Et là-dessus aussi, on reviendra. On commence tout de suite en abordant les nouvelles de la presse. Une nouvelle assez inquiétante et on va voir pourquoi, même s'il s'agit d'une donnée purement statistique. Stéphanie Levitz de la presse canadienne signe un texte intitulé « De moins en moins de Canadiens s'identifient à la classe moyenne ». Un nouveau sondage laisse croire que la bataille politique constante pour le soutien de la classe moyenne au Canada se déroule sur un territoire de moins en moins grand. Un sondage Écosse, la presse canadienne, mené auprès de 4839 Canadiens, indique que la proportion de personnes qui s'identifient à la classe ouvrière se situe à 37 %, tandis que 43 % des participants estiment faire partie de la classe moyenne. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 2002, a indiqué Écosse. Au début du siècle, environ 70 % des Canadiens se définissaient selon les termes de la classe moyenne. Durant la même période, la proportion de gens estimant faire partie de la classe ouvrière a presque doublé. Ces identifications ne concernent pas seulement les finances personnelles, souligne le président d'Écosse, Frank Graves. Elles touchent aussi à la perception des gens quant à leur bien-être, leur lien émotif et leur sentiment général sur leur qualité de vie. M. Graves soutient qu'il ne s'agit pas uniquement d'un débat économique. Si nous voyons vraiment des gens quitter la classe moyenne, alors nous avons une société moins saine et moins heureuse à un certain moment dans l'avenir, estime-t-il. Le sondage par téléphone a été mené entre le 15 septembre et le 1er octobre et a une marge d'erreur de plus ou moins 1,4 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les questions ont été posées dans le cadre des efforts de la presse canadienne et d'Écosse pour évaluer si les éléments ayant mené au bouleversement du statu quo politique aux États-Unis et ailleurs ces dernières années sont présents au Canada. Ce sondage laisse croire qu'ils sont bien présents. Ce n'est pas comme si les gens sortent de la classe moyenne et accèdent à la classe supérieure, dit M. Graves. Ils glissent vers l'arrière. Et je crois que les indices sont assez clairs que cela est probablement la principale source de la montée du populisme et de toutes les choses désagréables qui y sont reliées, soutient-il. Écosse a questionné les Canadiens sur leurs perspectives financières à court et à moyen terme, et seulement une minorité de Canadiens s'attendent à une amélioration de la situation. Lorsque 2400 participants au sondage ont été questionnés sur leur qualité de vie comparativement à celle des gens il y a 25 ans, 33 % estimaient se trouver dans une meilleure situation, tandis que 34 % avaient l'impression d'avoir une moins bonne qualité de vie. Lorsqu'un échantillon un peu plus grand de 2400 personnes a été appelé à évaluer la qualité de vie de la prochaine génération, 13 % des gens ont dit croire qu'elle serait dans une meilleure posture, tandis que 56 % entrevoyaient une détérioration de la situation. Toutefois, les perceptions sur l'économie dans ce genre de coup de sonde tendent à être en décalage avec les réalités, souligne M. Graves. Les plus récentes données de Statistique Canada sur la croissance de l'emploi montrent des gains sur 10 mois consécutifs, la série la plus longue depuis 2008. Le salaire moyen à l'heure a augmenté à un rythme de 2,2 % supérieur à l'inflation, la plus forte croissance depuis avril 2016. Esclavage. Des Afro-Néo-Écossais réclament compensation. C'est un texte d'Adina Bresge, ou Bresge, je m'excuse madame, pour ma manière de prononcer votre nom, de la presse canadienne, ça nous vient d'Halifax. Des militants afro-néo-écossais estiment qu'il est temps que le Canada amorce une discussion, déjà en retard de plus d'un siècle, au sujet de l'héritage de l'esclavage, des séquelles qui perdurent pour la communauté noire et d'éventuelles formes de compensation. La présidente de la section néo-écossaise du Global African Congress, Lynn Jones, considère que le Canada est à la traîne par rapport à de nombreux autres pays au sujet des mesures d'indemnisation. En l'absence d'un engagement clair du Canada pour aborder le rôle du pays dans le commerce transatlantique d'esclaves, Lynn Jones se dit encouragée par un rapport récent des Nations Unies qui recommande des excuses du gouvernement fédéral pour la période d'esclavage et que celui-ci envisage des compensations. L'équipe de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, responsable des dossiers portant sur le multiculturalisme, n'a pas répondu pour le moment aux demandes de commentaires. Pour l'historien Isaac Sané, qui enseigne l'histoire des Noirs à l'Université Dalhousie, tout dialogue sérieux au sujet d'indemnisation doit commencer par la reconnaissance de ce qu'il appelle le péché originel du racisme contre les Noirs au Canada, l'esclavage de milliers de personnes de descendance africaine durant plusieurs siècles. Isaac Séné rappelle que l'esclavage est l'emprise qui a bâti une société. Il ajoute que l'esclavage n'existe plus, mais que les processus qui l'ont mis en place ont continué sous une forme ou sous une autre jusqu'à aujourd'hui. L'esclavage a été aboli dans les colonies britanniques dans les années 1830, mais le professeur Séné considère que son héritage a ouvert la voie aux injustices qui ont suivi envers les Canadiens noirs, comme la ségrégation, les politiques d'immigration anti-noire et les inéquités sociales d'aujourd'hui. Tout ça parce que l'esclavage a établi un précédent sur la manière de traiter les personnes de descendance africaine, soit comme des non-citoyens. Un héritage qui résonne particulièrement fort chez les Afro-Néo-Écossais, dont une importante partie de la communauté peut retrouver des racines de son arbre généalogique parmi les victimes de l'esclavage. Lynn Jones, qui a prêté sa voix à des démarches de compensation partout dans le monde, trouve toutes les raisons nécessaires de mener le combat au Canada dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse. Elle dit avoir rencontré avec son groupe le ministre des Affaires afro-néo-écossaises, Tony Ince, mais elle estime que le gouvernement provincial ne s'est pas encore intéressé sérieusement à la question. La sécurité de Justin Trudeau, des coûts records de 2,35 millions par mois, ce que rapporte Louis-Samuel Perron de la presse. Les égoportraits, les bains de foule et les voyages de Justin Trudeau ont fait bondir la facture pour assurer sa sécurité de plusieurs millions de dollars cette année. À 2,35 millions par mois, c'est le double qu'au début du règne de Stephen Harper. C'est même 10 fois plus élevé que le coût des vacances controversées de la famille Trudeau dans l'île privée de l'Aga Khan, qui ont récemment mis le premier ministre dans l'embarras. Seulement pour les 6 premiers mois de l'année, 14 millions de dollars ont été dépensés pour protéger Justin Trudeau et sa famille contre 11,5 pour la même période l'an dernier, selon des documents de la Gendarmerie royale du Canada, obtenus par la Loi sur l'accès à l'information. Cette hausse de 2,5 millions représente un bond de 22 % en un an. À ce rythme, la sécurité du premier ministre coûtera 28 millions à la GRC en 2017, alors qu'elle s'était élevée à 23,6 millions l'an dernier, déjà un sommet des dernières années. Au cours des 20 premiers mois du mandat de Justin Trudeau de novembre 2015 à juin 2017, la sécurité du premier ministre a coûté 40 millions de dollars, soit environ 2 millions par mois. Or, depuis le début de l'année 2017, la facture mensuelle s'est élevée, comme on le disait, à 2,35 millions. La facture du mois de mai, par exemple, est passée en un an de 1,7 à 2,7 millions. Notons qu'en mai 2017, Justin Trudeau a effectué un voyage de 7 jours en Europe pour le sommet du G7, alors que l'année précédente, il s'était rendu au Japon pour plusieurs jours en vue du même sommet. Et ça, voyez-vous, c'est le bon côté de la démocratie parce qu'on a quand même élu le gars le plus populaire, donc le moins dispendieux à protéger. Salle d'injection supervisée près d'une école, des parents sont inquiets, ce que rapporte J.L. O'Neill Mézil de la presse. À quelques jours de l'ouverture du service d'injection supervisée Spectre de rue, rue Ontario, des parents d'élèves de l'école Marguerite Bourgeois, qui se trouve à 200 mètres du centre, planifient un dernier coup d'éclat afin de forcer les porteurs du projet à tenir compte de leur proposition d'ouvrir le centre de 9h30 à 14h30. Les parents impliqués dans cette cause organisent aujourd'hui une conférence de presse à laquelle prendront part leur avocat, Julius Gray, ainsi que le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'éducation, Jean-François Roberge. Ils y annonceront les prochaines étapes qu'ils prendront pour faire entendre leurs revendications. Christelle Perrine, dont les 3 enfants fréquentent l'école Marguerite Bourgeois et qui est présidente du conseil d'établissement, fait partie des parents qui déplorent l'ouverture d'un centre d'injection directement dans un corridor scolaire fréquenté par plus de 300 élèves par jour. Selon le plan actuel, le centre d'injection supervisé, dont l'ouverture est prévue le 15 octobre, offrira ses services de 8h30 à 18h en semaine et de 10h à 16h le week-end. Il sera le seul ouvert de jour à Montréal.
C'est une nouveauté, c'était les chercheurs d'or avec la pièce Éléphant Blanc.
Moins d'un Québécois sur deux vote aux élections municipales, ce qui est assez dramatique. Le Devoir se fait d'ailleurs écho à une campagne du directeur général des élections du Québec. C'est un texte de Vicky Fragasso-Marquis. Le DGEQ intervient pour hausser le taux de participation. Préoccupé par le taux de participation anémique aux élections municipales, le directeur général des élections du Québec lance une campagne de publicité pour inciter les citoyens à s'exprimer lors du scrutin qui aura lieu dans moins d'un mois dans 1105 villes de la province. Aux dernières élections municipales en 2013, 47 % des Québécois se sont déplacés pour choisir un maire ou un conseiller municipal, ce qui est nettement insuffisant selon le directeur général Pierre Reid. En 2009, le taux de participation était d'environ 45 %, sensiblement le même qu'en 2005. Monsieur Reid s'inquiète notamment de l'abstention importante des jeunes électeurs. Qu'est-ce que ce sera dans les prochaines années? C'est inquiétant pour notre démocratie. Ça devrait interpeller pas seulement le directeur général des élections, mais également l'ensemble de la société, a-t-il déclaré en entrevue téléphonique. M. Reid ne cible pas de pourcentage en particulier, mais cherche à faire réfléchir les électeurs sur l'impact qu'ont les décideurs municipaux dans leur vie au quotidien. Il rappelle que les municipalités administrent annuellement plus de 15 milliards de dollars et qu'elles contrôlent près de 60 % des infrastructures publiques. Bon, contrôle, faut le dire vite à Montréal. C'est quand même le niveau de pouvoir qui est le plus près des citoyens et citoyennes, des enjeux qui sont dans leur vie quotidienne. On pense que les électeurs doivent se prononcer sur les élus qu'ils veulent avoir, a-t-il soutenu en entrevue. Les publicités qui seront diffusées à la télévision et à la radio viseront à dire aux électeurs sur un ton humoristique que les municipalités, elles, ne peuvent faire leur travail à moitié. Dans une d'entre elles, par exemple, on voit un enfant s'aventurer sur une glissoire qui est construite à moitié. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié, lance-t-on dans les trois publicités télévisées. M. Reid avance que plusieurs personnes ne vont pas voter aux élections municipales parce qu'elles croient manquer d'informations. Il espère donc que cette campagne de sensibilisation convaincra les électeurs d'aller voter et de s'informer sur les propositions des différents candidats. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 5 novembre à travers le Québec. En éditorial dans Le Devoir, Robert Dutrisac se demande si le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, n'est pas en train de chercher une issue honorable. Du moins, c'est ce qui ressort de son texte intitulé « Sortie de secours ». Après non son pas de recul qui a suivi la déconfiture de son parti dans Louis Hébert, voilà que Philippe Couillard persiste et signe. Il n'est pas question de s'aborder la commission sur la discrimination systémique et le racisme, a-t-il fait savoir à l'Assemblée nationale. Les consultations auront lieu, mais dans un format écourté, axé sur des résultats concrets. Le gouvernement souhaite en finir avant Noël. Les membres de la table de concertation contre le racisme systémique ont raison de dire que le premier ministre s'ingère dans la consultation chapeautée par la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Veil, et confiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est que la consultation est devenue un enjeu politique que Philippe Couillard, à un an des élections générales, ne peut ignorer. Il faut dire que dès le départ, la Commission, contrairement à un exercice semblable mené de façon consensuelle en Ontario, a soulevé la suspicion de deux des trois partis d'opposition. Au Parti québécois et à la Coalition Avenir Québec, on est persuadé que les libéraux veulent instrumentaliser la Commission pour se poser en parangon de la vertu multiculturelle et taxer leurs adversaires d'intolérance. Le nom même de la commission, propre au langage juridique et académique, attribue au racisme un caractère systémique, ce qui a amené certains à croire ou à feindre de croire que ce qu'on affirme, c'est que les Québécois sont systématiquement racistes. La commission est là pour faire le procès des Québécois, ont martelé péquistes et caquistes. Or, ce procès, ça fait des années qu'il dure. Depuis qu'il a été convenu d'appeler la crise des accommodements raisonnables au début de 2007, crise que la commission Bouchard-Taylor a analysée en profondeur. Depuis que le PQ, avec sa charte des valeurs prétendument québécoise, a tenté de façon malhabile et pernicieuse de fédérer les xénophobes ordinaires, aux vues rances et bornées, et les défenseurs d'une laïcité de tendance républicaine, dont les féministes et les progressistes anti-islamistes. Les Québécois se sont débarrassés d'une religion pesante et omniprésente, et une majorité d'entre eux chérit la séparation de l'Église et de l'État. Ils voient d'un mauvais œil le retour de la religion dans la chose publique. Pour cela, le Canada anglais et les chartistes leur ont jeté la pierre. Aujourd'hui, pour nombre de progressistes bien-pensants, tout ce qui relève de l'identitaire est le lot des ringards et de la droite. Philippe Couillard sent que la commission est en train de déraper. Son organisation connaît des ratés. Surtout, elle ne semble pas favoriser le rapprochement souhaité. La commission pourrait conduire à une exacerbation des tensions. Il est vrai que l'intervention du premier ministre est partisane. Il ne veut pas traîner ce boulet l'an prochain, l'année de l'élection. Mais on ne peut lui en vouloir de chercher à corriger une situation qu'il a contribué à créer. Il doit trouver une sortie de secours. Alors, les grandes sociétés canadiennes qui œuvrent à l'étranger sont-elles responsables de leurs actes en vertu de nos normes à nous applicables ici? C'est la question que Sarah R. Champagne pose dans les pages du Devoir. Le Canada peut faire mieux, disent deux autorités en matière de responsabilité des entreprises. Il en va du devoir d'humanité, comme de l'extension de l'état de droit au-delà des frontières. Pour le député français Dominique Potier, il s'agit de combler le fossé de gouvernance à l'échelle mondiale. Pour John Rudgy, éminent professeur de droit international à l'Université Harvard, le Canada traîne de la patte lorsqu'il s'agit de s'assurer que ses entreprises soient tenues responsables de leurs activités à l'étranger, affirment-ils tous deux. Le gouvernement du Canada ne jouit plus du même leadership qu'avant en matière de droits de l'homme, dit M. Rudgy. Loin de formuler un reproche, il dit simplement s'attendre à ce que le pays prenne position et bouge dans le sens de politique publique. M. Rudgy est l'auteur des lignes directrices du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, aujourd'hui appelé couramment « Principe de Rudgy » tant il est devenu une autorité en la matière. Ces lignes directrices ont été adoptées par des entreprises et autres entités commerciales. La FIFA a notamment fait un critère dans l'appel d'offres de la prochaine Coupe du monde. Ces principes ont également inspiré des législations nationales, notamment au Royaume-Uni, en Californie, aux Pays-Bas et en préparation en Australie. La France se targue d'avoir adopté en mars dernier la législation la plus large en la matière. Elle reprend le principe du « devoir de vigilance », obligeant environ 150 sociétés françaises à produire une cartographie des risques et à procéder à des évaluations régulières. Quand vous allez sur l'autoroute, vous devez avoir un permis de conduire. Vous avez ainsi appris à identifier les risques et à les gérer. Cela n'empêche pas les accidents, mais ils sont réduits. On demande la même chose aux entreprises qui empruntent l'autoroute de la mondialisation, explique Dominique Potier, le député français qui a porté le projet de loi. Il revient donc aux entreprises de définir leurs propres zones de risque différentes selon les domaines. Monsieur Potier a voulu la loi la plus universelle possible, plutôt que sectorielle. Impossible de protéger seulement les enfants du travail, donne-t-il en exemple, si leur environnement est vicié ou si leurs parents sont esclaves. Sous le coup de la nouvelle loi française, les entreprises ne pourront ainsi plus se montrer aveugles face aux agissements de leurs sous-traitants. Le but premier était de lever la plus grande hypocrisie de l'ultralibéralisme, le voile juridique commercial, insiste le politicien. Et c'est sur ces mots qu'on fait une courte pause. On se donne rendez-vous de l'autre côté avec les nouvelles du Journal de Montréal.
seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Lying in the wedding cake, you used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way.
Elvis Costello avec la pièce Allison sur Canal M.
Journal de Montréal, où Anne-Caroline Desplanques nous apprend qu'il est de retour. Qui le il? Eh bien, je vous le dis tout de suite, le gaz de schiste. La menace du gaz de schiste est de retour. De nombreux citoyens de la vallée du Saint-Laurent ont perdu le sommeil depuis que Québec a ouvert la porte à un retour de l'exploration gazière dans le secteur le plus habité de la province. C'est de retour, cette histoire-là? Pincez-moi, s'il vous plaît, c'est un cauchemar, lance Daniel Houle. Cette citoyenne de Saint-Denis-sur-Richelieu, près de Verchères, dort mal depuis que le gouvernement a déposé 4 projets de règlement qui autorisent les forages pétroliers et gaziers à 150 mètres de sa maison. Ces règlements pourraient entrer en vigueur dès novembre et relancer l'exploration gazière et pétrolière dans le sud du Québec. S'ils ne sont pas modifiés, Mme Houle craint de voir débarquer les gazières chez elle d'ici la fin de l'année. Bien que leur nombre ait diminué depuis la levée de boucliers de 2010 et le moratoire qui a suivi en 2012, les compagnies demeurent bien présentes. Elles détiennent des permis d'exploration qui couvrent 16 000 km² entre Montréal et Québec. Pour extraire le gaz de schiste, les gazières ont recours à la fracturation hydraulique, qui consiste à fracturer la roche en y injectant à haute pression un cocktail d'eau, de sable et de produits chimiques. « Je suis paniqué. C'est horrible », dit Mme Houle, qui a l'impression de revivre le cauchemar de 2010 quand avait éclaté le scandale du gaz de schiste au Québec. Cette année-là, un soir d'octobre, un représentant de l'entreprise Forest Oil l'attendait chez elle à son retour du travail. Il était venu lui annoncer qu'un puits de gaz de schiste serait foré à moins de 500 mètres de sa maison. « Ça a été un choc épouvantable », se souvient-elle. Madame Hull s'est battue d'arrache-pied pour obtenir un moratoire sur le gaz de schiste. Manifestations, réunions, lectures, rapports, conférences, des soirées, des week-ends et sa santé y ont passé. Je suis tombée malade. J'ai commencé à faire des crises d'asthme à cause de l'anxiété. J'étouffais la nuit, dit-elle. Madame Hull pensait avoir échappé aux gazières quand Québec a décrété un moratoire, mais le gouvernement Couillard vient de réveiller ses pires angoisses. À côté de sa maison, la tête du puits de Forest Oil est encore là. Tout est prêt pour que ça reparte demain, souffle-t-elle. Non loin de là, Catherine Walton, agricultrice à Saint-Mathias-sur-Richelieu, affirme que les gazières menacent son gagne-pain, une ferme biologique de 50 hectares. Comment on ferait pour satisfaire aux normes en cas de pollution? Demande celle qui cultive des fruits, des légumes et des céréales certifiées Québec vrai. En 2010, Mme Walton avait sonné l'alarme après avoir observé des allées et venues suspectes de Junext. 7 ans plus tard, les pancartes d'opposition au gaz ont pâli devant sa ferme, mais son inquiétude demeure vive. « On surveille beaucoup notre eau, mais on ne peut pas tout analyser. Ça coûte bien trop cher, » dit Mme Walton. Elle explique qu'il lui serait impossible de tester son eau et son sol pour chacun des produits chimiques utilisés dans la fracturation de la roche. Pour le savoir, voici la carte des permis d'exploration pétrolière et gazière en vigueur. Ces permis sont des droits réels immobiliers qui permettent aux détenteurs de demander l'expropriation des habitants. À un an des élections, le gouvernement Couillard prend un risque inouï en remettant l'exploitation gazière à l'ordre du jour, car une opposition monstre l'attend, préviennent scientifiques, écologiques et syndicalistes. Si jamais une compagnie se montre, il va y avoir une mobilisation sans précédent, dit Lucie Sauvé, coordonnatrice du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste, qui regroupe 170 chercheurs. Madame Sauvé souligne que le mouvement citoyen d'opposition au gaz de schiste est très structuré. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui compte 130 groupes de citoyens à travers la province, a d'ailleurs organisé une manifestation à Québec samedi. Se voulant rassurant, le ministre de l'Environnement, David Hurtel, a déclaré qu'il reste du travail à faire sur ce règlement-là. Attendons le produit final avant de parler d'apocalypse pétrolière au Québec. Citoyens, municipalités, entreprises et autres acteurs concernés avaient 45 jours à partir du 20 septembre pour faire parvenir leurs commentaires au gouvernement sur les 4 projets de règlement déposés. Il leur est donc toujours possible de le faire d'ici aux prochaines élections municipales. Le Journal de Montréal, plus particulièrement Elisa Cloutier, s'est également intéressé donc au Centre Jeunesse. Le titre « Centre Jeunesse, victime d'agression tous les jours » et on ne parle pas ici des pensionnaires, mais bien des employés. Agressions physiques et verbales répétées contre des employés, intervenants surchargés et en manque de ressources, la situation va de mal en pis dans les 16 centres jeunesse du Québec, où le nombre de congés de maladie augmente. Chaises et tables lancées sur des employés, coups de poing, séquestration. Les employés des centres jeunesse sont à bout de souffle, si bien que certains se disent polytraumatisés. Selon des documents obtenus par le journal en vertu de la loi sur l'accès à l'information, 10 centres sur 16 ont enregistré une hausse de congés de maladie prolongés au cours des 2 dernières années. C'est dans ceux de Montréal, de la Montérégie, de Québec et de Laval que l'on compte le plus grand nombre d'heures payées en assurance salaire. Par ailleurs, les centres de Laval, de la Côte-Nord, de l'Outaouais et de Québec ont enregistré les hausses les plus marquées. Il y a en rotation au moins 2 employés en congé de maladie dans chaque équipe depuis plusieurs mois, selon Patrick Bourgard, travailleur social au Centre Jeunesse de Montréal. Des employés interrogés par le journal, qui ont préféré garder l'anonymat, estiment que les agressions de plus en plus violentes expliquent en bonne partie les nombreux départs en congé de maladie. Être séquestré par un jeune dans un bureau, une fourchette qui revole sur le plancher et qui pique juste à côté de ton pied, se faire mordre ou cracher dessus, se faire traiter d'hostie de pute, de lesbienne, c'est fréquent, mentionne Marie-Ève, nom fictif, employée du Centre Jeunesse de Québec, en arrêt de travail depuis plusieurs mois après avoir subi un choc post-traumatique lié à une agression physique. Les agressions, ça arrive tous les jours. La violence est maintenant banalisée par les éducateurs. Maintenant, une porte qui claque, ça me ramène à mon angoisse, raconte celle qui a fait une croix sur son travail auprès des jeunes. Quand tu te fais agresser et que tu vois une collègue se faire agresser violemment après, tu as des flashbacks quand tu reviens à l'unité, explique Sophie, non fictif, employée au centre jeunesse de Laval qui, en près de 10 ans de carrière, a été 3 fois en arrêt de travail. L'employeur met peu de choses en place pour éviter les agressions contre les employés. Quand on a eu une chaise d'en face la veille, on n'a pas la distance nécessaire le lendemain pour rester neutre, empathique et aidant envers ce même enfant-là, ajoute celle qui déplore les récentes coupes. Depuis l'épisode des fugues, il y a eu des mises à pied de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs, de psychologues. Ils ont ajouté des gestionnaires qui ont un lien avec la police et c'est tout, dit-elle. Depuis les fusions des centres jeunesse et des établissements de santé en divers CISSS et CIUSSS en 2015, les tâches administratives ont explosé selon les intervenants, qui estiment que plus du tiers de leur temps de travail se déroule devant leur ordinateur. Par ailleurs, les charges de travail pourraient être revues pour certains employés du Centre jeunesse de Québec, puisque le PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, confirme qu'une centaine de postes seront abolis au sein de l'organisme, dont certains dans les secteurs de la jeunesse. Ce sont plutôt des postes qui seront transformés, alors qu'au moins 70 de ces postes étaient vacants, précise-t-il, ajoutant que certains seront relocalisés et que certaines charges de travail seront revues. M. Delamarre n'a pas été en mesure de dire exactement combien de postes seront abolis ou transformés au Centre jeunesse de Québec. Les centres jeunesse devraient être complètement revus, sous-titre donc. Les centres jeunesse ont besoin d'une restructuration complète, estime la criminologue Maria Mourani, qui déplore un important manque de ressources, notamment de psychologues au sein des établissements. Il y a des filles en choc post-traumatique revenues de fugue qui doivent attendre entre 6 et 8 mois avant de voir un psychologue. Ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème, se désole Mme Mourani, qui estime que les centres jeunesse ne sont pas suffisamment outillés pour aider les filles sorties des griffes des gangs de rue et de la prostitution. Plus on attend, plus on risque que, lorsqu'elle va ressortir pour aller à l'école ou autre, elle retourne dans le réseau, ajoute-t-elle. Le manque de psychologues est aussi criant chez les intervenants. Avant, nous avions du soutien pour nous aider dans nos interventions, mais maintenant, les psychologues sont tellement débordés que ce n'est plus possible. Nous avons des clientèles de toutes sortes en santé mentale. On a beau avoir étudié dans le domaine, on ne peut pas tout connaître, indique Sophie, employée au Centre jeunesse de Laval. Les couples pourraient se solder par des démissions, selon la criminologue. Ils pressent le citron jusqu'à ce que le monde fasse un burn-out. Je connais des gens qui en ont marre de leur travail. Les gens qui travaillent dans les centres jeunesse, ce sont des gens qui aiment les jeunes, mais quand ils les voient en détresse à longueur de journée, ça gruge à l'intérieur et c'est difficile psychologiquement, conclut-elle. Allez, un beau cas ici où on voit un maire notamment repousser un gros employeur qui pourrait éventuellement être intéressé. Vous allez voir, c'est intéressant. Jim Balzilli critique les pro-Amazon, paru sous la plume de Francis Alain, également dans le Journal de Montréal. L'ex-PDG de BlackBerry, Jim Balzilli, fait une sortie en règle contre ceux qui veulent avoir le siège social d'Amazon. M. Balzilli les accuse carrément d'agir en colonisé. Cette dernière initiative est la suite des politiques d'innovation stupides où le contribuable canadien crée la prospérité au sud de la frontière, a lancé au Globe and Mail vendredi dernier Jim Balzilli, aussi président du Council of Canadian Innovators, regroupant des PDG d'entreprises technologiques. Pour M. Balzilli, les promesses d'Amazon d'investir 6,27 milliards dans la construction d'un nouveau bâtiment de 8 millions de pieds carrés et de créer 50 000 emplois d'ici 15 ans ne tiennent pas la route. L'ancien patron de BlackBerry va même jusqu'à dire que nos entreprises techno ont peur de ne plus pouvoir recruter d'ingénieurs de haut calibre si Amazon s'installe au pays, toujours selon le Globe. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a dit au mois de septembre dernier qu'il ne voulait rien savoir du deuxième siège social de la multinationale à Québec pour ne pas rompre l'équilibre du plein emploi de sa ville. « On ne veut pas qu'Amazon vienne en ville, on n'est pas intéressé. On va laisser ça à M. Coderre. En ville, ils videraient toutes les compagnies. On va demander à Amazon de faire comme si on n'existait pas, a-t-il indiqué. De son côté, le maire de Montréal, Denis Coderre, a manifesté dès la première heure son désir d'attirer Amazon chez lui. Selon lui, la métropole ressemble à Seattle, où est le premier siège social d'Amazon. M. Coderre souhaite attirer Amazon ici tout en s'assurant, par ailleurs, que la multinationale paie bien ses taxes, comme Netflix, avait-il insisté, entouré du milieu du cinéma au mois d'août dernier. L'établissement du deuxième siège social d'Amazon en Amérique du Nord pourrait générer des investissements de plusieurs milliards de dollars américains en plus de milliers d'emplois hautement rémunérés, a déjà dit le ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Andelade. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, a salué récemment l'engagement d'Air Canada à desservir Seattle à partir de Montréal si Amazon choisissait de miser sur Montréal. Ni M. Coderre ni Mme Andelade n'ont pu commenter la vigoureuse sortie de l'ex-PDG de BlackBerry lundi.
Karine Ouellette et la pièce Marie-Jo.
Et voici le segment de cette émission consacré aux nouvelles plus légères, curieuses, insolites. On commence tout de suite en vous parlant de ce qui est devenu un Las Vegas au cube au Moyen-Orient, c'est-à-dire Dubaï. Un texte de Mohamed Ali Harissi de l'agence France Presse a été publié dans la presse. Taxi volant, robot policier, drone, Dubaï se voit en grande ville du futur. Taxi volant, moto et robot policier de surveillance, drone multifonctionnel. Des innovations technologiques présentées à Dubaï traduisent l'ambition de la cité-État de compter parmi les grandes villes du futur et d'augmenter son attractivité. La vedette incontestée du salon JTEX qui s'est ouvert dimanche est le projet de taxi volant promis pour dans 5 ans si, d'ici là, des questions d'infrastructure et de réglementation sont réglées. Un premier test de l'engin a été réalisé avec succès le 25 septembre, mais l'autorité du transport de Dubaï, la RTA, devra trouver des réponses avec l'aviation civile pour l'exploiter commercialement. Imaginez un taxi Uber volant, enfin. Et il faudra aussi des aménagements à terre pour le faire voler d'un point à un autre de la ville, adapter les moteurs au climat extrêmement chaud du Golfe et résoudre des questions de sécurité. Le projet prendra 5 ans et on travaillera avec des partenaires stratégiques pour mettre au point le cadre légal et les infrastructures afin de le faire fonctionner, a déclaré à l'AFP Khaled Abderrahman Al-Hawadi, l'un des responsables de la RTA. Le taxi volant est la vedette de nos innovations et je suis sûr qu'il verra le jour, a-t-il assuré. L'engin, doté de 18 moteurs électriques, a été développé par la firme allemande Volocopter et il trône au centre du salon JTEX, dont il est effectivement l'attraction principale. Il dispose d'une autonomie de vol de 30 minutes et peut transporter 2 passagers tout en étant dirigé à l'aide d'une application sur téléphone intelligent. Le taxi, qui coûte entre 200 et 250 000 euros pièce, est doté d'un système qui lui permet d'atterrir en douceur, a expliqué le responsable de la RTA en réponse aux appréhensions de futurs clients. De même, il volera à une altitude d'environ 120 mètres loin des couloirs de l'aviation civile, a souligné M. Awadi. La police de Dubaï, qui utilise déjà des robots pour orienter des touristes, a pour sa part présenté plusieurs innovations entre Batman et Robocop. La policière Huda Hussein a fait une démonstration en souriant aux caméras autour d'une moto de fabrication japonaise qui ressemble à l'engin du film Batman. La moto est équipée de 8 caméras qui détectent toutes sortes d'infractions au code de la route. Elle est conduite par un agent, mais on travaille à la rendre autonome et à la mettre en service en 2020, a expliqué l'officière à l'AFP. Un autre engin futuriste a été présenté au JTEX. Il ressemble à une moto sans moteur, dotée de rotors lui permettant de voler. De fabrication russe, l'engin, qui peut voler à 5 mètres d'altitude pendant 25 minutes, fait encore l'objet de tests et la police n'est pas encore certaine de sa future utilisation. On n'a pas encore décidé, mais on pourrait recourir à l'engin pour atteindre des endroits difficiles d'accès, comme les bouchons sur les routes, a indiqué un autre officier de la police, Al-Hamad Mohamed. Une autre innovation proposée au salon, cette fois dans le secteur du transport aérien, est un contrôle de police et de douane en 15 secondes à l'aéroport. Ça va faire fantasmer l'aéroport à Montréal. Il suffit de passer sous un tunnel biométrique pour que soient accomplis les contrôles et la procédure d'enregistrement pour l'embarcation se fera dans le taxi électrique qui amène le passager à l'aéroport. L'aéroport de Dubaï est l'un des 3 aéroports les plus actifs au monde avec 83 millions de passagers en 2016. Dubaï, où se trouve déjà la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, à 828 mètres, est l'une des principales destinations touristiques du Golfe avec 15 millions de visiteurs en moyenne par an. Cette ville ultramoderne de 2,5 millions d'habitants, majoritairement des étrangers, est un grand centre d'affaires au Moyen-Orient. Elle est parsemée de centaines de tours aux allures futuristes. Un avis peut-être au président des États-Unis qui, on le verra plus tard, se prépare à faire un grand pas en arrière en matière d'environnement. L'agence France Presse nous rapporte un texte qui dit que les parcs éoliens en pleine mer pourraient fournir le monde entier en énergie. Les parcs éoliens en pleine mer pourraient générer bien plus d'énergie renouvelable que ceux installés sur la terre ferme, possiblement assez pour fournir le monde entier, selon une étude publiée lundi aux États-Unis. Des chercheurs de la Carnegie Institution for Science ont découvert que les vents plus forts rencontrés en pleine mer pourraient produire 5 fois plus d'énergie que les turbines installées sur la terre ferme. Bien qu'il n'existe actuellement aucun parc éolien à grande échelle en eau profonde, les résultats de l'étude suggèrent que cette technologie vaut la peine d'être étudiée, et ce même si la puissance de telles fermes varierait en fonction des saisons. En hiver, les parcs éoliens de l'Atlantique Nord pourraient fournir une énergie suffisante pour répondre à tous les besoins actuels de la civilisation, selon cette étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. En été, en revanche, de tels parcs éoliens pourraient seulement générer assez de courant pour couvrir les besoins en électricité de l'Europe ou éventuellement des États-Unis, selon l'étude. Celle-ci s'appuie sur des modèles informatiques comparant la productivité des grands parcs éoliens du Kansas à des fermes éoliennes imaginaires géantes installées en pleine mer. Dans certaines régions, en particulier dans l'Atlantique Nord, les parcs éoliens pourraient être beaucoup plus puissants parce que la résistance des pales de leurs turbines ne ralentirait pas autant les vents qu'elle le ferait sur Terre. En outre, les parcs éoliens en pleine mer sont plus à même de capturer l'énergie provenant du haut de l'atmosphère pour la transporter vers la surface. Nous avons constaté que les parcs éoliens océaniques géants sont capables de profiter de l'énergie des vents d'une grande partie de l'atmosphère, tandis que les parcs éoliens à terre restent limités aux ressources éoliennes proches de la surface, a déclaré la co-auteure de l'étude, Anna Posner. Alors, Ivana Trump ou Melania Trump, laquelle est la première dame des États-Unis? Un petit incident, un impair, dirons-nous, survenu à la télévision. Ivana Trump, première dame, Melania n'apprécie pas, ce que rapporte l'agence France-Presse. Ivana Trump, première femme du président américain Donald Trump, a provoqué lundi une réaction courroucée de Melania. Il faut dire que elle était interviewée à l'occasion de la sortie de son livre et elle a parlé d'elle-même comme étant la première épouse de Donald Trump, donc techniquement la première dame. Melania Trump a répliqué, elle, qu'elle ne voulait pas vendre des livres avec ce titre-là, mais bien aider les enfants. Donc, voilà. À suivre. Dans quelques instants, on enchaîne avec les nouvelles internationales, puis les nouvelles culturelles. Restez là.
Qui c'est qui vient dîner ce soir? Qui c'est qui vient dîner ce soir? C'est le vent de l'Est. C'est le vent de l'Est. C'est l'Orient, c'est les Balkans, c'est le soleil, c'est le vent de l'Est, c'est le vent de l'Est. Kamikaze, Wattila, Gandhi, Bouddha, Himalaya, octobre 1917, chute des tsars, chute des têtes, c'est le vent de l'Est, c'est bien Proudhon, c'est le vent de l'Est, Staline ou la Révolution, c'est le vent de l'Est, je ne le suivrai pas. C'est le vent de l'Ouest, c'est le vent de l'Ouest. C'est l'Occident civilisé, technologie et liberté. C'est le vent de l'Ouest, c'est le vent de l'Ouest. C'est 1492, c'est 1789, c'est 1984, c'est mai 68, est-ce qu'on trinque? C'est le vent de l'Ouest, c'est Hollywood, Rousseau, Voltaire. C'est le vent de l'Ouest, Mère Teresa et Rockefeller. C'est le vent de l'Ouest, je ne le suivrai pas. Qui c'est qui vient manger dans tout? Qui c'est qui vient manger dans tout? C'est le vent du sud, c'est le vent du sud. C'est le midi, c'est le désert, le paradis ou bien l'enfer. C'est le vent du sud, c'est le vent du sud. Les gens du sud n'ont pas d'histoire, ce sont des Indiens ou des Noirs. Ils n'ont pas de dieu, pas de maître, l'histoire c'est pas fait pour les bêtes. C'est le vent du sud, dit Chirigou hasta siempre. C'est le vent du sud, dictature et olé olé. C'est le vent du sud, je ne le suivrai pas. C'est qui vient boire et manger, c'est le vent du nord. C'est le vent du nord. C'est l'Arctique, c'est la grande ours, la boussole, la seule source. C'est le vent du nord. C'est le vent du nord. De là-haut viennent les mémoires, les ours blancs et les nuits noires. Des nuits longues comme des morts que seul le vent traverse encore. C'est le vent du nord, c'est pour chacun le même sort. C'est le vent du nord, on passe de bâbord à tribord. C'est le vent du nord et je suivrai le vent du nord. Lorsqu'il emportera mon corps, rien ne l'arrêtera. À l'heure du trépas, c'est le vent du nord, c'est pour chacun le même sort. On passe de bâbord à tribord et je suivrai le vent du nord. Lorsqu'il emportera mon corps, rien ne l'arrêtera. À l'heure du trépas.
Le vent du Nord, Thomas Jensen et les faux monnayeurs.
Actualité internationale, ou dirons-nous plutôt semi-internationale en commençant, puisque la première nouvelle concerne Justin Trudeau, qui est attendu à Washington en après-midi. C'est d'ailleurs le titre du texte de QMI. Le premier ministre Justin Trudeau s'entretiendra avec le président Donald Trump mardi après-midi. Trudeau est attendu à Washington à 14 heures. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a affirmé qu'il plaidera en faveur de Bombardier après l'annonce de droits compensatoires anticipés de plus de 300%. L'ALENA, qui entre dans sa quatrième phase de négociation, sera aussi au cœur des discussions. Il s'agira du deuxième tête-à-tête entre Justin Trudeau et Donald Trump depuis l'élection américaine de novembre 2016. Justin Trudeau doit également participer à un sommet économique organisé par le magazine Fortune. Trudeau quittera Washington mercredi pour se rendre au Mexique où il rencontrera son homologue Enrique Peña Nieto. En provenance de Washington, c'était peut-être la nouvelle déprimante d'hier. L'administration Trump va abroger la mesure phare d'Obama sur le climat, un texte de Cyril Julien de l'agence France-Presse. L'administration Trump va abroger une mesure phare de l'ex-président Barack Obama sur le climat, mettant en œuvre une promesse de campagne du candidat républicain pour la relance de l'industrie minière américaine qui est dénoncée par les écologistes. Cette décision intervient alors que Donald Trump a déjà annoncé début juin sa décision de quitter l'accord de Paris sur le climat, estimant qu'il était défavorable aux États-Unis. Cet accord avait été signé en décembre 2015 par 195 pays, dont les États-Unis de Barack Obama, pour limiter la hausse du réchauffement climatique. Le président républicain va cette fois revenir sur le Clean Power Plan. plan pour une énergie propre, signé par son prédécesseur démocrate en août 2015. Cette mesure avait pour but d'accélérer la transition énergétique et d'imposer aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de dioxyde de carbone, le CO2, de 32 % d'ici 2030 par rapport à 2005. Le plan entraînerait la fermeture de nombreuses centrales à charbon, les plus anciennes et les plus polluantes. Il est cependant bloqué depuis février 2016 par la Cour suprême, saisie par une trentaine d'États majoritairement républicains. La guerre contre le charbon est finie, a lancé lundi le chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Scott Pruitt, lors d'un discours dans le Kentucky, une terre minière de l'est du pays. Demain à Washington, c'est-à-dire aujourd'hui, je signerai un projet de décision pour abroger le soi-disant Clean Power Plan de la précédente administration, a dit M. Pruitt, un climato-sceptique qui a combattu les initiatives environnementales de M. Obama. Ce plan, a-t-il affirmé, était fait pour désigner les vainqueurs et les perdants. La précédente administration utilisait tout son pouvoir et son autorité pour faire que l'EPA désigne les vainqueurs et les perdants et la façon dont on fabrique de l'énergie dans ce pays. C'est mal. En 2015, alors procureur général de l'Oklahoma, il avait estimé que ce plan était une tentative illégale d'accroître le pouvoir des bureaucrates fédéraux sur la politique énergétique aux États-Unis. Cette décision est l'une des plus grosses attaques contre la santé publique, notre climat et la sécurité de chaque communauté aux États-Unis, a dénoncé Michael Brune du Sierra Club, l'une des plus importantes ONG environnementales américaines. Selon lui, le Clean Power Plant empêcherait des milliers de morts prématurées et des dizaines de crises d'asthme chez les enfants chaque année. Ken Kimmel, le président de Union of Concerned Scientists, a estimé que l'annonce du chef de l'EPA était entachée par un conflit d'intérêts. M. Pruitt a participé à cette affaire en tant qu'avocat pour l'une des parties, puis comme juge et juré à l'EPA et désormais comme bourreau du plan Obama, a-t-il expliqué. L'association rappelle qu'avant la signature du plan climat, aucune règle n'existait pour limiter les émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques qui sont la première cause du réchauffement climatique. Donald Trump avait signé en mars le décret sur l'indépendance énergétique qui ordonnait un réexamen du plan climat de son prédécesseur. Il estimait que beaucoup de réglementations environnementales étaient inutiles et destructrices d'emplois et que l'EPA avait outrepassé ses prérogatives en limitant les émissions polluantes. Christian Rioux du Devoir est à Madrid où, évidemment, il suit les incidents catalans. Le ton monte à Madrid. À moins de 24 heures de ce qui pourrait être une déclaration d'indépendance de la Catalogne, la tension était à son comble lundi à Barcelone. Après le déferlement de dimanche dans la capitale catalane de milliers d'Espagnols venus défendre coûte que coûte l'unité de l'Espagne, le ton est monté d'un cran à Madrid où l'on évoque ouvertement l'emprisonnement du président catalan comme le réclamaient massivement les manifestants dimanche. Face aux demandes de médiation lancées par le chef du gouvernement catalan depuis une semaine, Pablo Casado, vice-président en communication du Parti populaire au pouvoir à Madrid, a répondu que la seule personne avec laquelle Carles Puigdemont devrait dialoguer, c'est son avocat. Devant la possibilité que le président catalan fasse une déclaration d'indépendance mardi, c'est-à-dire cet après-midi, ce porte-parole du Parti conservateur affirme que Madrid prendra tous les moyens pour empêcher l'indépendance et qu'elle fera tout ce qui est nécessaire sans renoncer à aucun instrument de la Constitution ni du Code pénal. L'histoire ne se répétera pas, sinon lui aussi finira comme Companys, a-t-il ajouté. Or, Luis Companys est le dirigeant qui avait proclamé la République catalane en 1934 avant d'être emprisonné puis fusillé par les troupes du dictateur Franco. Casado a aussi été obligé de préciser qu'en évoquant Companys, il ne pensait pas à son exécution mais à sa détention. Et le porte-parole de rappeler que le Code pénal espagnol punit la sédition de 15 ans de prison et la rébellion de 25. Thank you. Culture, et je vous avouerai qu'aujourd'hui, je me sens un peu triste, l'impression d'avoir perdu un vieil ami, Jean Rochefort, on le disait en début d'émission, Jean Rochefort qui est décédé hier. Jean Rochefort, l'homme à la moustache, un texte de François Lévesque. Au gré d'une filmographie comptant plus de 150 films, Jean Rochefort joua de tout, gentil et méchant, dans de grands comme de petits films, avec chaque fois une délectation manifeste. Avec sa stature haute, sa voix chaude et surtout son éternelle moustache, il était l'un des comédiens les plus immédiatement reconnaissables du cinéma français. Il en était aussi l'un des plus aimés. Décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 87 ans, Jean Rochefort laisse en héritage une filmographie longue et variée, ainsi qu'une passion jamais tarie pour le métier. Il eut beau y faire dès ses débuts dans la vingtaine, ce n'est qu'à la quarantaine venue qu'il goûta la célébrité. Est-ce le fait d'avoir dû attendre si longtemps son heure de gloire qui lui permit d'apprécier celle-ci lorsqu'elle vint enfin? Il reste que ces dernières années encore, alors que Jean Rochefort s'était fait rare, on pouvait toujours discerner cette étincelle dans son regard quand il jouait, comme s'il jouissait en secret de chaque seconde passée devant la caméra. En 2016, il s'était fait retirer la vésicule biliaire et avait de nouveau été hospitalisé au mois d'août. La famille n'a pas précisé les causes exactes de la mort. Né à Paris en 1930 au sein d'un foyer aisé, son père cadre dans l'industrie pétrolière, sa mère comptable, Jean Rochefort vécut une enfance troublée par la guerre à Vichy. J'avais 14 ans. La première femme nue que j'ai vue était enchaînée, couverte de croix gammées et de crachats. Devant le cortège, un héros, entre guillemets, car dans ces périodes troublées, les héros naissent comme les champignons après la pluie, tenait le bébé de cette jeune femme par les chevilles, comme un poulet. La foule était ivre de haine. J'ai envisagé de faire quelque chose, de la sauver, tel Don Quichotte, mais bien sûr, je me suis dégonflé, confiera-t-il à Michel Drucker en 2004. Ironiquement, l'acteur était déjà associé au héros de Cervantes pour n'avoir pu le jouer dans l'adaptation inachevée de Terry Gilliam. Mauvais élève, Jean Rochefort fit Dan et ses parents. Lorsqu'il décida à 19 ans de monter à Paris pour étudier à la mythique École de la Rue Blanche ou l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ces derniers ne s'y opposèrent pas. Il fut ensuite admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique où il fit la connaissance de Jean-Pierre Marielle, avec qui il collaborera fréquemment au cours de sa carrière. D'emblée très occupé au théâtre, il débuta au cinéma dans de petits rôles au milieu des années 50. Ceux-ci gagnèrent en importance tout en restant secondaires au cours des années 60, notamment avec la série Angélique. En 1972, après avoir amusé un méchant colonel Toulouse dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, il décrocha finalement un premier rôle dans Les Feux de la Chandeleur, film construit autour d'Annie Girardot, alors au fait de sa popularité. En mari qui voit d'un mauvais œil les positions gauchistes de son épouse, Rochefort fit merveille. Girardot et lui se retrouvèrent sur le cavaleur. En 75, Bertrand Tavernier lui confia le rôle de l'abbé Dubois, premier ministre sous Louis XV dans Le Féroce que la fête commence. Son interprétation délectable d'un être abject lui valut le César du meilleur acteur de soutien en 76. Il a fait débuter de nombreux metteurs en scène et cinéastes pour les aventures les plus audacieuses. Jean adorait les personnages ambigus. Il a été magnifique dans tous ses rôles de témoigner Tavernier auprès de l'AFP. En 76 toujours, Jean Rochefort, en mari tenté par l'adultère, connut l'un de ses plus gros succès populaires avec une autre comédie d'Yves Robert. Un éléphant s'attrompe énormément, refait à Hollywood avec Gene Wilder. Une suite, Nous irons tous au paradis, paru en 77. Fait intéressant, cette œuvre légère teint l'affiche en même temps que le drame Le crabe tambour de Pierre Schoedendorfer. Rochefort trouva là l'un de ses rôles les plus marquants, celui d'un officier de la marine qui, au large de Terre-Neuve, contemple la mort qui vient tout en espérant pouvoir régler un dernier compte. Bouleversante, sa composition tout en demi-teinte lui valut le César du meilleur acteur. Durant cette période eut lieu une rencontre décisive avec le cinéaste Patrice Lecomte. Ça nous donne les films « Les WC étaient fermés de l'intérieur »,« Le mari de la coiffeuse ». Patrice Lecomte dira « Il était très, très rieur. On avait convenu qu'on s'appellerait l'un l'autre quand on avait une nouvelle histoire drôle. » À qui vais-je téléphoner maintenant? Alors, je l'avais dit aussi en début d'émission, il y a un nouvel Astérix qui va être lancé. La presse et l'agence France Presse, en fait, nous en parle. BD, un nouvel Astérix sur les chapeaux de roue. Le prochain album d'Astérix va-t-il faire de l'ombre aux aventures de Michel Vaillant, le plus célèbre pilote automobile de la BD? C'est en tout cas un Astérix sur les chapeaux de roue à découvrir dans Astérix et la Transitalique, sortie mondiale le 19 octobre. Le 37e album de la série créé il y a 58 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, le troisième réalisé par le tandem Jean-Yves Ferré au scénario et Didier Conrad au dessin, est le premier à se dérouler entièrement en Italie. Astérix et Obélix se retrouvent engagés dans une course de voitures effrénées à travers les voies romaines. Ont un peu dévoilé lundi Ferré et Conrad au cours d'une conférence de presse dans les salons de l'Automobile Club de France. Absent de la conférence de presse pour des raisons de santé, j'ai eu quelques petits problèmes, a dit d'une voix fatiguée Albert Uderzo, 90 ans, dans un message enregistré. Le créateur, avec Goscinny, du plus emblématique des héros de BD français, a salué le travail de ses successeurs. Leur travail est formidable, extraordinaire, a-t-il dit. L'histoire me touche beaucoup, puisqu'en dehors de la BD, j'ai eu un autre amour, l'automobile. Et juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, une sortie d'Astérix, des chiffres. Albert René, une filiale d'Hachette, a prévu une sortie mondiale le 19 octobre. L'album est déjà traduit en 16 langues, va bénéficier d'un tirage total de 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions en français et 1,7 million en allemand. Pour vous donner une idée, quand on tire un roman au Québec d'un auteur pas très très connu, on fait 500 copies. Nouvelle régionale, on commence par Le Soleil de Québec qui nous dit que plusieurs ministères sont délinquants à l'égard du propre plan stratégique du gouvernement. Pas moins de 43% des ministères et des organismes liés à l'État québécois enfreignent la loi sur l'administration publique. Ils n'ont pas de plan stratégique actif, un outil pourtant réclamé et jugé essentiel par le Conseil du Trésor. Sur 63 ministères et organismes assujettis à la loi québécoise sur l'administration publique, 27 sont sans feuille de route selon des données internes obtenues par Le Soleil. Ces ministères et organismes ne respectent pas les obligations que leur confère la loi. Ils ne respectent pas non plus les directives émises par le Conseil du Trésor pour leur rappeler l'importance d'élaborer un plan stratégique courant sur plus d'une année. Parmi eux, le Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre lui-même. Le ministère de la Famille, celui des Transports, celui du Développement durable et de l'Environnement, celui des Affaires municipales et celui des Finances sont aussi du lot, tout comme le sont le commissaire à la lutte contre la corruption et la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Si 57% des 63 ministères et organismes sont bel et bien dotés d'un plan stratégique, soit 36 au total, il faut savoir que 9 d'entre eux ont obtenu de pouvoir le prolonger dans le temps, car le leur est en réalité échu. Les prolongations courent jusqu'au 31 mars prochain. C'est entre autres le cas pour la Régie des alcools, des courses et des jeux et pour le ministère de la Culture et des Communications. Mercredi dernier, lors d'une commission parlementaire, des députés ont été surpris d'apprendre de la bouche d'un sous-ministre que le ministère du Tourisme avance sans boussole depuis 10 ans, que son dernier plan stratégique global est échu, soit depuis 2007. Le député péquiste Mathieu Traversy s'est demandé combien le ministère était dans une situation semblable. Personne n'a pu lui fournir de réponse, puisque les seuls responsables présents étaient ceux du ministère du Tourisme. Les données obtenues par Le Soleil en fin de journée vendredi fournissent un portrait général de la situation. Précisons que sur les 27 ministères et organismes en infraction, 18 sont à l'heure actuelle en train d'élaborer leur prochain plan stratégique. Une bonne nouvelle scientifique qui nous vient du droit, donc de la région d'Ottawa, puisqu'une chercheuse là-bas serait parvenue, et c'est le titre du texte, à renverser les effets nocifs du THC, un texte de Louis-Denis Ebacher. Une chercheuse de l'Ontario estime qu'il est possible de renverser les effets néfastes du cannabis sur le comportement des adeptes qui en consomment depuis l'adolescence. L'équipe de la Dr Justine Renard de l'Université Western à London a mené des expériences concluantes sur des rats. D'abord, les chercheurs leur ont administré du THC, le tétrahydrocannabinol, soit la substance qui donne l'effet recherché chez les consommateurs de cannabis. Des études précédentes ont démontré que la consommation à long terme pouvait entraîner des effets pervers chez l'humain, tels le déficit d'attention, la perte de motivation, l'anxiété, la modification de comportements sociaux, voire la schizophrénie. Santé Canada a dressé une liste exhaustive des effets potentiellement néfastes sur la santé. La Dr Renard a exploité les propriétés surprenantes d'une enzyme déjà présente chez l'animal et l'humain. Il s'agit du GABA, un neurotransmetteur qui permet entre autres de contrôler la peur ou l'anxiété. C'est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux qui régule l'activité neuronale, explique-t-elle. Le GABA agit sur des récepteurs spécifiques du cerveau. Chez les personnes schizophrènes, on observe des diminutions du GABA par rapport à la moyenne. Dans ces tests menés sur des rats affectés par les effets à long terme du THC, l'équipe de l'Université Western a réussi à restaurer les neurotransmetteurs grâce à des injections de GABA. À Sherbrooke, Chloé Côte-Noir de la Tribune s'interroge, elle, sur c'est quoi le milieu qui est un centre de garde? Un titre, un milieu à qualité variable. Une plainte a été enregistrée au ministère de la Famille contre la responsable d'un service de garde ayant rudoyé un enfant dans un parc de l'arrondissement de Rock Forest récemment. L'enquête qui s'enclenche ne portera toutefois pas sur les gestes brusques de la femme envers le jeune garçon, mais sur un possible dépassement de ratio. C'est que, dans l'état de la loi, le ministère ne peut intervenir par rapport aux gestes que l'on voit dans la vidéo. Nous avons des raisons de croire que le milieu familial était en dépassement de ratio, et c'est pour cette raison que nous pouvons nous adresser au ministère de la Famille dans ce cas-ci, explique Florence Garcia, directrice générale du bureau coordonnateur de garde en milieu familial pour l'arrondissement de Rock Forest Saint-Élie-Deauville. Rappelons que la courte vidéo a été mise en ligne sur Facebook par une personne témoin de la scène. On y voit la gardienne s'approcher d'un enfant assis sur le sol. En s'accroupissant près de lui, la gardienne relève brusquement le menton du bambin et en s'adressant verbalement à lui. On voit ensuite la jeune femme prendre un mouchoir et essuyer le nez du bambin de façon brusque à quelques reprises avant de se relever et de laisser l'enfant seul derrière elle. À ce jour, plus de 33 000 personnes ont regardé ces images. Le service de police de Sherbrooke a rencontré la mère de l'enfant ainsi que la gardienne à la suite de l'incident, mais aucune plainte n'a été déposée. Grande visite à Alma, ce dont nous parle Myriam Gauthier du quotidien. Jack Meetsing en défenseur du français, c'est le titre. Le nouveau chef du NPD, Jack Meetsing, s'est présenté comme défenseur de la langue française et de la culture francophone québécoise lundi soir devant une soixantaine de militants rassemblés à Alma pour soutenir la candidate néo-démocrate à l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean, Gisèle Dallaire. Je veux vous rassurer, je veux être un allié pour vous, un allié pour défendre la langue, la culture, l'identité qui est tellement importante pour la richesse du pays », a-t-il exprimé devant les partisans du NPD qui étaient rassemblés à l'occasion d'un 5 à 7 au motel Les Cascades. Le nouveau chef du NPD, élu le 1er octobre, avait annoncé peu après sa victoire qu'il épaulerait sa candidate dans Lac-Saint-Jean. Sa visite à Alma, qui se poursuivra sur le terrain mardi, marque son premier arrêt au Québec à l'extérieur de Montréal depuis qu'il a pris la tête du parti. L'équipe néo-démocrate mise sur la candidature de Gisèle Dallaire pour conquérir une deuxième circonscription au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle qui avait obtenu 28,46% des voix en 2015, terminant deuxième derrière le conservateur Denis Lebel, qui avait récolté 33,27% des votes. Et vous l'entendez, l'indicatif nous signale déjà que c'est la fin de cette émission. Je m'en voudrais de conclure sans avoir remercié Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et sans vous avoir remercié d'avoir été si patient avec moi jusqu'à demain, jour où enfin Hélène revient au travail. Merci.